Cette méditation m'a aidée aussi, je m'en suis rendu compte bien après, à pérenniser enfin mon sevrage tabagique.
Bienvenue à toutes et à tous. Je suis David et vous êtes sur Radio BPCO, l'émission qui donne la parole aux experts de la BPCO. Professionnels de santé ou patients, nos intervenants vont vous partager leurs expériences et leurs expertises au sujet de cette maladie. Pour démarrer notre tout premier épisode, comment s'approprier sa BPCO ? Nous sommes accompagnés de Christiane Pochulu, patiente experte qui fait partie de l'association Santé Respiratoire France et qui nous vient tout droit de Marseille, et du professeur Aguilanu, pneumologue à Grenoble. Nous commençons avec Christiane qui va nous parler de son histoire. Bonjour Christiane.
Bonjour David.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ?
Alors je suis retraitée d'une carrière plutôt trépidante dans la mode puis le design d'espace qui m'a amenée à beaucoup voyager et même parfois à vivre à l'étranger. J'ai été diagnostiquée d'une BPCO au stade de l'insuffisance respiratoire, soit le stade le plus sévère. Et un an plus tard, j'ai intégré, à l'incitation de mon pneumologue, deux formations diplômantes de patiente experte à la faculté de médecine de Marseille. Mes actions de patiente experte sont très diversifiées, intervention en éducation thérapeutique du patient, formation des futurs soignants, co-construction de programmes de TP, représentation des patients, témoignages dans les médias, etc. etc. Je suis très, très impliquée, très engagée et très active. Et comme vous l'avez dit, je suis également membre de l'association Santé Respiratoire France, où je milite pour la reconnaissance des maladies respiratoires et notamment de la BPCO. Et à ce titre, j'ai participé aux travaux de la Haute Autorité de Santé sur cette pathologie.
Très bien. Alors maintenant, pouvez-vous nous parler de comment s'est passée l'annonce de la maladie ?
Alors l'annonce de la maladie, moment délicat, a eu lieu pendant une hospitalisation décidée aux urgences. J'étais arrivée au stade de la suffocation. Parler était quasiment impossible. Et donc, j'avais 60 ans.
Et qu'avez-vous ressenti en apprenant que vous étiez atteinte de BPCO ?
Alors, j'ai ressenti de la culpabilité et aussi de la colère, et même une double colère. Alors envers moi, tout d'abord, car ce diagnostic, bien évidemment, était le résultat de 45 ans d'addiction au tabac. Bien que depuis l'âge de 35 ans, je luttais sans cesse pour cesser de fumer et toujours, chaque fois, je rechutais. 3 mois avant le diagnostic, j'avais cessé de fumer pour la 10e fois. Je n'ai donc jamais été dans le déni concernant la cause de ma BPCO au moment du diagnostic. En revanche, j'ignorais absolument tout de la BPCO et ce fut l'autre origine de ma colère, mais tournée vers l'extérieur cette fois. L'interne m'expliquait les symptômes, toux, expectoration, bronchite à répétition, essoufflement, précisait que la maladie est sournoise, évoluant sur des dizaines d'années. Et en l'écoutant, je repensais aux 3 généralistes successifs que j'avais consultés, chacun sur de longues années, qui connaissaient ma tabagie, qui connaissait mes efforts pour essayer de cesser ma tabagie et qui avait sous les yeux absolument tous les symptômes et qui ne m'ont jamais ni aidé ni diagnostiqué. Donc, incrédulité de ma part et grande colère. Et bon, quand j'ai dit à l'interne qui m'a annoncé le diagnostic à quel point j'étais incrédule, en colère, encore une fois, de tous ces rendez-vous manqués, il m'a répondu, tout à fait ironique, j'en parlerai à la ministre de la Santé la prochaine fois que je la verrai. Donc, pas d'empathie, une ironie franchement blessante et toujours pas d'aide reçue ce jour-là.
Très bien. Et par rapport à votre entourage, comment est-ce que ça s'est passé avec vos proches au moment de l'annonce ?
Alors, j'ai ma famille se résume à une personne qui est ma fille. Elle était très jeune à ce moment-là, elle avait 21 ans et elle fumait aussi depuis l'âge de 15 ans. Donc, je ne lui ai pas caché la gravité de ma maladie, ni sa chronicité. Je lui ai dit que je ne guérirais jamais, mais je n'ai pas voulu non plus dramatiser et je lui ai montré que j'étais prête à rentrer dans un parcours de soins avec confiance. D'abord parce que c'est quelque chose que je ressentais. Enfin, je me sentais prise en charge. C'est un mot que je n'aime pas trop, mais prise en soin, disons. Et donc, ça m'a permis aussi de, me semble-t-il, de la rassurer sur l'avenir qui s'annonçait. En outre, la question s'est posée de sa tabagie. Et donc, je me suis absolument interdit d'aborder frontalement sa consommation de tabac et de lui demander d'arrêter de fumer. Bon, ce ne fut pas facile de retenir mes mots, mais je savais que ce serait absolument inutile parce que la peur et la culpabilisation ne sont pas de bons leviers pour aider un fumeur. J'ai préféré tabler sur la valeur de l'exemple et sur l'empathie, chose qui ne m'était pas difficile, puisque j'étais moi-même une fumeuse. Sauf que j'avais arrêté de fumer quand même, je n'ai pas dit peut-être, trois mois avant le diagnostic, pour la 10e fois. Voilà. Quelques mois plus tard, donc, pour en revenir à ma fille, au cours d'un dîner, elle m'a demandé « Maman, comment tu as fait pour arrêter de fumer ?» Et là, à l'intérieur, il y a quelque chose qui a fait « Yes !» J'ai su immédiatement que le processus de désamour entre la cigarette et elle avait commencé. Donc, je n'ai plus qu'à l'accompagner sur son parcours et à l'aider surtout à trouver sa solution à elle. Et donc, je l'ai pleinement soutenue à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est non-fumeuse et c'est pour moi une grande victoire et une grande fierté.
Je comprends très bien. Et parmi vos expériences, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé à vous approprier la BPCO ?
Alors, il y a eu un moment fondamental, c'est que quand j'ai séjourné à l'hôpital, l'hôpital m'a organisé un rendez-vous avec un pneumologue. Et cette consultation a été vraiment fondatrice de tout ce qui allait se passer ensuite. Sans occulter le caractère irréversible de mes atteintes pulmonaires, hein, puisque j'étais au stade de l'emphysème, il m'a donné un objectif clair. Il m'a dit « on va essayer de vous stabiliser ». L'objectif, c'est ça, vous stabiliser. Et il m'a donné les moyens d'y parvenir. Et ces moyens sont au nombre de 4. Alors, l'arrêt du tabac, en tout premier lieu, bien sûr, il faut, puisque dans 85% des cas, c'est le tabac qui est responsable des BPCO, il faut commencer par éradiquer cette cause, ou s'il y a une autre cause, l'éradiquer également si c'est possible. Et ça, c'était fait depuis 3 mois, donc au moins nos relations ont démarré sur de bonnes bases. Le deuxième point, il m'a dit, vous aurez un traitement de fond, sous forme d'un bronchodilatateur en prise quotidienne. Et ce sera très important d'être très observante. Le troisième point, c'est la prévention par les vaccins. Évidemment, le vaccin antigrippal, les antipneumocoques. Et aujourd'hui, rajouterai certainement le vaccin anti-Covid, bien évidemment, puisque nous faisons partie du public à risque de cette maladie. Le quatrième point, il a bien insisté en me disant qu'il était absolument fondamental, c'était de démarrer sous la forme d'un séjour dans un centre de réadaptation respiratoire, de démarrer un réentraînement à l'effort. Et en réalité, un séjour en réhabilitation respiratoire fait l'objet vraiment d'une prise en charge absolument globale, entraînement à l'effort, kiné respiratoire, diététique, psychologue, problèmes éventuels sociaux, financiers, enfin tout est vraiment, l'ensemble de la vie d'un patient est examiné et on essaye de lui apporter donc l'aide dont il a besoin. Donc désormais, je connaissais les quatre piliers du parcours de soins et par la suite, je l'ai beaucoup remercié de m'avoir d'emblée donné sa vision d'ensemble qu'il m'a donnée de mon futur, de ce que je pouvais attendre. Ça m'a donné beaucoup d'espoir et contrairement à ce jeune interne donc, qui m'avait vraiment désespérée, il m'a insufflé voilà, de l'espoir, de l'envie, de la motivation, l'envie de jouer le jeu et de m'investir à fond dans le parcours. Aujourd'hui, je dois dire que l'objectif initial a été atteint. Je suis stabilisée depuis 6 ans maintenant. Plus d'exacerbation, jamais. Et je pratique environ l'activité physique environ entre 4 et 5 heures par semaine. Et j'ai aussi rajouté, moi, un cinquième pilier à ce parcours de soins. Parce que ce parcours, finalement, s'occupe beaucoup du corps, s'occupe de l'organe, de l'ensemble du corps. Mais il y a un domaine qui est un peu oublié, c'est celui du mental. Et la maladie chronique, elle est génératrice de beaucoup d'anxiété, de beaucoup de questions. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. On vit avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, pour éviter de, non pas de trop y penser, mais de mettre à distance ces idées, parce que finalement, quand on va bien, pourquoi aller imaginer que les choses pourraient mal tourner? Ce sont des productions mentales qui ne nous font pas du bien, qui nous emmènent sur des terrains qui nous fragilisent. Donc, le moyen que j'ai trouvé pour gérer tout ça, c'est la méditation de pleine conscience que je pratique quasiment quotidiennement. Cette méditation m'a aidée aussi, je m'en suis rendu compte bien après, à pérenniser enfin mon sevrage tabagique, ce que je savais par cœur comment arrêter de fumer, mais je ne savais pas le pérenniser dans le temps, ce sevrage. Et grâce à la méditation, j'y suis parvenue.
Merci beaucoup Christiane d'avoir partagé avec nous votre histoire. Avant de conclure sur votre partie, voulez-vous commenter la thématique de l'appropriation de la maladie ?
J'entends souvent le mot « acceptation » associé à la maladie chronique. Ce mot ne me convient pas. Il y a dans ce mot l'idée d'une situation que l'on subit, l'idée d'une résignation passive. Et la passivité mène à la sédentarité, puis bien souvent à l'isolement. Mon parcours, tel que je vous l'ai raconté, montre plutôt à quel point il faut être acteur de sa santé pour améliorer son bien-être. La régularité des efforts et l'observance des traitements permettent de continuer à avoir une vie personnelle riche et aussi une vie sociale. Certes, la maladie est toujours là, mais en se l'appropriant, terme que je préfère, on ne lui laisse pas toute la place.
Eh bien, merci beaucoup, Christiane, d'avoir partagé avec nous votre histoire. Je me tourne maintenant vers vous, professeur Aguilanu. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous ?
De moi ? Ah ben moi, je suis simplement docteur. Je suis docteur et principalement, je m'occupe des maladies chroniques respiratoires invalidantes, maladies bronchiques, bien sûr. Donc aujourd'hui, on parle de la BPCO. Et j'ai été très touché de ce qu'on vient d'entendre de la part de Christiane, parce qu'elle a dit les mots clés. Et notamment, à travers ce qu'elle a dit, on voit quelle est la position du docteur, du pneumologue, doit sensiblement évoluer, puisque le rôle du médecin dans l'appropriation de la maladie, c'est pas inné. Le médecin s'occupe du poumon, mais ne se préoccupe pas tout simplement parce qu'il n'a pas été formé pour cela. C'est l'expérience au fil du temps qui le forme de manière intuitive à cette dimension particulière qu'on pourrait dénommer l'incommensurable. C'est-à-dire qu'entre l'histoire de la BPCO de Christiane et l'idée que le docteur se fait de cette maladie, il y a quelque chose, il y a un bout à bout qui ne se fait pas. Et cet incommensurable est définitif. On ne pourra jamais se mettre à la place totalement du patient. On pourra s'en rapprocher de plus en plus, mais il y aura toujours une petite distance entre ce que le patient ressent dans sa vie et ce que le docteur en pense. Or, l'appropriation, c'est justement approcher, réduire cet incommensurable le plus longtemps possible. Et Christiane a dit 2 choses très importantes. Elle a dit que pour elle, il était important d'avoir la perception d'un devenir. C'est-à-dire que malgré la maladie, il y a un futur. Dire au patient qu'il y a un futur dans une maladie pulmonaire qui ne régressera pas, c'est une posture qui nécessite une réflexion de la part d'une pneumologue. Devant une maladie chronique telle que la BPCO, il ne faut pas se mettre en face du poumon du malade, il faut se mettre à côté du patient, justement pour l'aider à s'approprier cette maladie, c'est-à-dire au fond, à la mettre à sa place, c'est-à-dire qu'elle n'envahisse pas la vie du patient. Donc la prise en charge de la BPCO, c'est en fait avoir conscience que c'est une maladie du moindre détail, et tous les détails sont importants, au-delà de la prise en charge pulmonaire, comme l'a dit Christiane, avec les quatre piliers que le pneumologue que vous avez rencontré, Christiane, vous a indiqué, l'arrêt du tabac, le traitement de fond régulièrement pris, la prévention et l'indication d'une réhabilitation.
Très bien, très bien. Et par rapport à la réhabilitation, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience et des bénéfices pour le patient ?
Alors, on a longtemps pensé, avec un esprit scientifique et rationnel, que la réhabilitation, c'était faire de l'exercice et améliorer la condition physique des gens. Et c'est vrai. Et c'est vrai. D'autant plus que les patients BPCO sont souvent sédentaires, le tabagisme est lié à la sédentarité. Donc, premier objectif, c'est de faire de l'exercice et améliorer la condition physique des gens. Mais c'est beaucoup plus que cela. La réhabilitation, c'est une expérience. C'est une expérience, c'est l'apprentissage de la perception d'une amélioration à travers des gestes, à travers des rencontres, à travers d'une prise en charge que l'on appelle globale. En fait, il y a l'expérience de la perception que c'est possible, qu'on peut s'améliorer en dépit de son handicap. Et c'est d'une certaine manière aussi un lieu où on réduit cet incommensurable. Parce qu'on voit les patients pendant longtemps. Un pneumologue voit son patient une demi-heure, deux fois par an. Comment voulez-vous qu'en une demi-heure, deux fois par an, malgré toute l'empathie et la compétence professionnelle qu'il peut avoir accumulée au fil du temps, donc pas le jeune interne qui vous voit pour la première fois, pour lequel l'incommensurable est d'une dimension incroyable, mais le pneumologue d'expérience, malgré toute sa capacité professionnelle, une demi-heure, deux fois par an, on ne peut pas s'occuper des gens. Donc la réhabilitation est un lieu où cet incommensurable va être réduit et où le patient va se sentir véritablement au sein d'une équipe qui va lui faire percevoir le possible, le devenir et la cohabitation avec une maladie qu'il faut laisser à sa place, c'est-à-dire ne pas envahir la vie. Et c'est vraiment dans le service, dans un stage de réhabilitation, qu'il soit en hospitalisation ou en ambulatoire, que ce cheminement peut se faire au mieux.
Nous avons évoqué avec Christiane comment elle avait géré l'annonce de la maladie avec sa fille. Selon votre expérience, quelles sont les différentes réactions possibles des proches et quelles conséquences peuvent-elles avoir ?
Quand on annonce un diagnostic, quel que soit le diagnostic, c'est dans une famille et pour les proches un véritable bouleversement. Quand on annonce le diagnostic de BPCO, c'est aussi un bouleversement qui implique de nombreuses réactions. Certaines familles vont être très protectrices, voire surprotectrices, jusqu'à parfois étouffer même la vie du patient. D'autres, au contraire, vont prendre de la distance. Il peut y avoir un sentiment de rejet ou de culpabilité partagée, puisque les familles de patients BPCO sont souvent fumeurs. Et donc, il faut que le médecin soit extrêmement attentif à l'endroit où il met les pieds, dans ce cercle affectif qui est la famille. Et il faut qu'il soit aussi attentif à repérer les aidants potentiels, qui ont un rôle considérable et qui peuvent être aussi conseillés par le médecin pour aider à cette appropriation dont Christiane a déjà parlé.
Très bien, et bien merci beaucoup pour ces mots de conclusion. C'est la fin de ce premier épisode de Radio BPCO. Merci infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous votre histoire et votre expertise. Et à très bientôt, j'espère.